Ce sera le féminisme est-il soluble dans le capitalisme? On a envie d'écrire sur le sport aussi. Enfin, on essaye de traiter comme ça pas mal de sujets, de faire parler des gens de là-dessus. En fait, l'idée, je disais tout à l'heure, on est journaliste et on vient de médias un peu traditionnels. Et moi, j'avais très envie, quand on a fondé la revue, déjà que ce soit un bel objet, quoi, qu'on ait envie de le lire, que ça donne envie. Et, voilà. Donc, ça veut dire de faire appel à des illustratrices, à des photographes et tout, et des graphistes. Et aussi qu'on utilise tous les outils qui sont à notre disposition comme journaliste pour raconter l'époque. Donc ces outils, c'est le reportage, c'est le portrait, c'est le portfolio, on fait aussi des portfolios dans la revue, de la bande dessinée, voilà, d'utiliser tout ça, et puis l'idée c'est quand même de s'amuser, donc voilà.
Et quand il y a des reportages à l'étranger, les personnes vont sur le terrain et tout ça, par exemple le dernier en Iran ou...
Ça c'est le rapport à l'actualité qui est un peu compliqué quand on fait un trimestriel, parce que donc ce que tu disais tout à l'heure, effectivement là on est en train de travailler sur un numéro qui va être publié dans très longtemps, et forcément il y a des moments où il se passe des choses dans l'actu et où on a envie de le raconter, donc il y a une frustration à pas pouvoir le faire. Là par exemple dans ce numéro là, quand on a, enfin vraiment quasiment à la fin, il y a commencé à avoir la révolte en Iran, Femme, Vie, Liberté, on s'est dit c'est pas possible, on est la revue des révolutions féministes, qu'on ne parle pas de ça, enfin, c'est quand même compliqué. Donc on a demandé à une chercheuse qui s'appelle Shora Makarimi, et qui est en France, à Paris, d'écrire sur la difficulté, c'est de trouver le petit pas de côté qui fait que quand les gens vont ouvrir la revue, eh ben, on sera pas complètement à côté de la plaque, parce que l'actualité aura énormément changé. Et donc on lui a demandé d'écrire sur les 30 ans de lutte féministe en Iran, et elle revient, du coup c'est passionnant son article, parce qu'elle revient sur pourquoi est-ce qu'on arrive aujourd'hui à Femme, Vie, Liberté, ce dont on parle très très peu, c'est-à-dire l'histoire du mouvement féministe iranien et comment en fait il y a des femmes qui se révoltent depuis très très longtemps dans ce pays.
Et il y a souvent aussi une partie archive un peu en fait.
Je pense au dernier par exemple où vous parlez un peu de la naissance du planning familial et puis enfin qui était partie d'un fait divers. Là, c'est sur l'affaire des époux Bac, par exemple, mais parfois vous étiez revenu sur un pensionnat aussi. Et ça, c'est intéressant, du coup, aussi, pour comprendre en fait certaines choses qui se passent aujourd'hui.
On a une rubrique qui s'appelle Retour sur, qui c'est de raconter un moment qui a été un peu un tournant dans le féminisme récent, quoi, contemporain, on va dire, et qui a pu changer les choses. Donc, effectivement, on a écrit sur là, c'est l'affaire des époux Bac. Par exemple, le prochain, c'est le Nipplegate, ou le moment où Janet Jackson, en 2004, a montré son sein et a mis fin à sa carrière malgré elle, et aux États-Unis. Et en fait, ça raconte plein de... Enfin, c'est un moment qui est ultra médiatisé et qui change. C'est-à-dire que là, par exemple, Janet Jackson, ce moment-là, en fait, c'est le début du bashing sur Internet et des vidéos complètement virales. C'est comment une femme noire parle de sexualité publiquement et du coup qu'elle est complètement laminée par les conservateurs qui s'en prennent à elle et qui mettent fin vraiment littéralement à sa carrière et qui font en sorte qu'elle se pète la gueule. Et voilà, donc c'est intéressant d'aller chercher dans ces moments, effectivement, de bascule, ce que ça raconte aussi, finalement, d'aujourd'hui. Et oui, effectivement, d'aller chercher ce que tu dis, quoi, sur l'histoire. Et... La difficulté, c'est de pas non plus être trop matrimonial, quoi. On a fait des portraits, c'est intéressant aussi d'aller chercher du côté de la pensée, par exemple, je pense à Monique Wittig. Voilà, on écrit comme ça des portraits, Françoise Daubonne, mais voilà, c'est pas non plus évident de trouver le juste milieu entre raconter une époque, ne pas non plus être trop historique.
Il y a une petite partie au début où vous répondez aux lecteurs qui peuvent vous écrire, voilà. Le fait que justement le féminisme, les féminismes et toutes les questions minorités, tout ça, c'est un sujet hyper vaste. Est-ce que vous avez plutôt des retours positifs et du soutien et tout ça, mais est-ce que c'est difficile à gérer aussi d'assumer certains points de vue et que certaines personnes ne se reconnaissent pas dedans et peuvent vous écrire un désaccord?
On est sur une ligne intersectionnelle et que les féministes qui sont pas trop d'accord avec nous, elles ont... Bon, en gros, elles nous lisent pas, quoi, je pense. Enfin, j'ai un peu ce sentiment-là. En tout cas, on n'a pas du tout de courrier de personnes qui seraient pas du tout sur notre position. Enfin, nous, notre idée dans le courrier d'électrice, c'est marrant parce que ce courrier d'électrice, en fait, on l'avait pas mis dans le premier numéro. Et c'est Bibia Pavard, qui est historienne, qui fait partie du comité éditorial de La Déferlante, qui nous a dit à quel point c'était une rubrique... très importante dans les magazines féministes qui avaient déjà existé. Le Torchon Brûle, etc. dans les années 70. Parce qu'en fait, ça permet de continuer le dialogue. Quoi, que là, il y a quelque chose qui se crée qui est important. Donc on l'a mis en place. Et c'est rigolo cette histoire parce qu'il y a un des premiers courriers qu'on publie dans le numéro 2, du coup, puisque dans le numéro 1, il n'y en a pas. C'est un courrier d'un certain Tal Madesta, qu'on ne connaissait pas à l'époque, et qui nous dit en fait, votre revue, elle est beaucoup trop binaire, vous avez pas du tout pensé ça. Et donc on lui dit, bah ouais, c'est vrai, en fait, t'as raison, c'est vrai que, par exemple, le manifeste, on y écrivait à l'époque qu'on voulait visibiliser le combat et le vécu des femmes, et pas du tout des personnes LGBT, ou pas du tout des personnes trans. Et voilà, donc ça nous a permis de nous questionner, de revoir aussi ça dans la revue, et on a continué le dialogue avec Tal, on lui a proposé d'écrire des chroniques dans la revue, donc il a écrit 4 chroniques, et là il sort donc notre premier livre, puisqu'on commence une maison d'édition, et c'est Tal qui publie, voilà, c'est le premier livre qu'on publie, c'est celui de Tal. Il y a un gros travail qu'on a fait à la Déferlante et dont j'ai pas parlé alors que c'est hyper important. Enfin, deux choses. La première, c'est que c'est, je pense, la seule revue en France entièrement en écriture inclusive. Et ça, on l'a fait dès le début, avec toujours cette idée d'être très accessible et lisible. Et on travaille avec une correctrice qui est géniale, qui s'appelle Sophie Hofnung, qui a écrit dès le début ce qu'on appelle une marche, qui est d'ailleurs disponible sur notre site. On l'a mise en dispo gratuitement sur le site parce que c'est hyper important ce qu'elle fait. Et elle est toujours dans ce rapport de faciliter la lecture, de faire attention à ça, à toujours être comprise par le plus grand nombre. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est la question de l'iconographie, donc des images dans la revue, et de comment on peut réfléchir à une iconographie qui serait non oppressive. C'est-à-dire qu'on constate que la plupart des médias prennent des photographes hommes pour aller photographier des femmes, prennent des photographes blancs pour aller photographier des personnes de couleur. Il y a toujours il y a un collectif qui s'appelle La Part des Femmes, qui est un collectif de photographes qui a compté ça, parce que le nerf de la guerre c'est toujours de compter, et qui a compté dans les dernières pages de Libé qui était pris en photo, etc. Et qui montre aussi, et c'est par exemple Jeanne Haddad, qui est une chanteuse rock, dans le prochain numéro, et on a été regarder les photos qui avaient déjà été prises d'elle pour voir ce qu'on avait nous envie de faire, et en fait elle est toujours photographiée comme une bête traquée, quoi, soit comme une petite fille, donc en plongée, soit comme une bête traquée comme ça, derrière ses mains, etc. Donc il y a une façon de représenter les femmes en fait, à travers la photo, mais aussi à travers l'illustration, qui est déjà biaisée, quoi, qui est déjà sexiste, et donc sortir de ça, ça l'est encore, un long chemin de réflexion, de confrontation, de prise de conscience aussi. Moi c'est par exemple, alors que je viens de l'écrire, c'était pas un truc du tout que j'avais pensé. Je vous donne un exemple. Dans le premier numéro, je fais mon montre. On a fait un article sur DSK, l'affaire DSK. Et donc on décide, à l'époque, notre iconographe qui s'appelle Ingrid Millau n'était pas encore arrivée. Et donc on décide de publier un article sur DSK, et on se dit, bah, qu'est-ce qu'on met comme photo? Bah, on met DSK, quoi. On réfléchit pas, donc on publie cette photo. Et Ingrid, en fait, quand elle est arrivée, elle nous dit, bah, en fait, là, vous le montrez comme une victime, quoi. Donc c'est l'agresseur qu'on montre, donc on invisibilise les femmes et en plus on le montre comme une victime. Et ça c'est un truc, voilà, qu'on met du temps aussi à déconstruire, à se dire ok, bah alors qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Si on montre pas les agresseurs, qui on montre? Comment on fait? Voilà, et ça c'est passionnant aussi comme discussion à avoir. Et notamment, donc Ingrid, qui est une de nos iconographes, elle travaille beaucoup là-dessus. Et puis à chaque fois, par exemple, on fait des collages, elle dit « Bah non, en fait, là, il n'y a que des femmes blanches, maigres, donc il y en a marre. Non, montre autre chose, quoi. » Donc ça, c'est super intéressant d'avoir ces réflexions-là. Et c'est toujours aussi, et c'est ça qui est génial dans cette revue, c'est que c'est toujours en mouvement. C'est toujours en constante discussion, évolution. Je disais, la marche là, sur l'écriture inclusive, on la change tout le temps. Par exemple, on s'était dit, bah, dans les rencontres, on en a parlé tout à l'heure, les rencontres, les gens à l'oral, c'est très rare qu'ils utilisent l'écriture inclusive, quoi. C'est quand même très très rare. Donc on s'est dit, c'est très bizarre de changer complètement les propos des gens pour leur faire écrire au féminin. Ils l'ont pas dit, et puis c'est pas très respectueux, donc on va laisser tel quel. Mais c'était en même temps hyper bizarre parce que les gens parlent vachement au masculin, donc c'était super bizarre pour nous d'avoir ça. Donc là en fait ce qu'on s'est dit maintenant, c'est qu'on allait les recontacter pour leur demander s'ils étaient d'accord, si elles étaient d'accord pour qu'on féminise. Donc c'est, mais c'est voilà, des discussions, c'est long, mais c'est important quand même pour nous, quoi.
Moi, j'ai vu tout de suite, en fait, l'accueil qui a été fait à la revue, quoi, dès que j'ai ouvert. Et au début, je me suis dit, j'ai envie de proposer un rayon sur ces questions-là, mais je vais y aller tranquille, parce que je veux pas non plus tout de suite être... avoir l'impression d'exclure des gens, tout ça, parce que je devais faire un peu ma place, quoi. Je me suis dit, je vais y aller tranquille, et au fur et à mesure aussi de mes rencontres avec les lecteurs, les lectrices et tout. Et en fait, il y a un vrai engouement, et il y a beaucoup de questionnements, en fait, sur justement le monde en mouvement. Et il y a beaucoup de livres qui sortent sur ces questions-là. Il y a de tout, hein, donc j'essaie de faire vraiment attention aux maisons d'édition, aux sources, qui l'a écrit. Et voilà, je trouve que la revue, du coup, elle apporte quelque chose en plus là-dessus. Et c'est vraiment, un gros kiff de la recevoir tous les trimestres. Enfin, souvent, les gens qui achètent ça, ils ont envie de discuter ou de me dire « Ah bah, c'est pour un tel. » Ça permet de faire des cadeaux un peu... Il y a beaucoup de gens qui achètent pour mon coloc, pour mon père, pour mon frère, pour faire passer des messages un peu comme ça, et je trouve ça super, en fait.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un entretien avec Lou Milour, militante féministe qui a cofondé le festival Very Bad Mother pour questionner le féminisme et la parentalité. Cette année, elle co-organise le festival Cause, qui veut dire vieille en breton, et qui sera consacré à l'analyse et à la déconstruction de l'agisme. N'hésitez pas à vous abonner à Bretonne, Breton et Féministe, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.
Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Ils font encore nuit et sont des frissonnes. Le bruit de leurs pas dans la rue résonne. Écoutez, puis leurs sabots. Voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, puis leurs sabots.
Bienvenue chez Bretonne, Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine.
C'est le 17e épisode et ce sera le dernier avant l'été. Le podcast reprendra en septembre pour fêter ses 1 an. Alors on va parler là maintenant d'éducation non sexiste avec la rennaise Amandine Antsevich, qui est l'autrice avec Manuela Spinelli du livre « Éduquer sans préjugés pour une éducation non sexiste des filles et des garçons ». On va expliquer ici les mécanismes qui se jouent dans cette éducation sexiste, comment il est difficile de s'en défaire, même en ayant déjà conscience que les enfants ne sont pas éduqués pareil selon si il et elle sont garçons ou filles.
Les petits garçons apprennent la normalité de ce qu'après on va qualifier de mansplaining ou de interrupting. Et les petites filles apprennent à se taire, à écouter. Alors écouter, c'est une très belle qualité, mais prendre la parole, ça devrait être possible aussi pour les filles. Finalement, c'est une place qui n'est pas donnée, qui est empêchée.
On apprendra aussi pourquoi le rose est associé aux filles et le bleu aux garçons. Attention, spoiler alerte, ce n'est que du marketing. Mais d'abord, Amandine va poser les bases. Pas question ici de culpabiliser les parents, d'imposer encore d'autres injonctions qui pèsent déjà sur les parents et en grande majorité sur les mères.
Au début du livre, il y a 4 citations et il y en a notamment 2 qui, moi, m'ont fait écho. Je te laisse lire la première qui est de Amandine D, qui a écrit donc ce passage dans son livre « La femme brouillon ».
Le meilleur moyen d'éradiquer la mère parfaite, c'est de glandouiller. Le terme est important car il n'appelle à aucune espèce de réalisation. Il est l'ennemi du mot « concilier ». Car si faire vœu d'inutilité est déjà courageux dans notre société, pour une mère, c'est la subversion absolue. Le jour où je refuse d'accompagner père et bébé à un déjeuner dominical pour traîner en pyjama toute la journée, je sens que je tiens quelque chose. Et la dernière citation, il faut tout un village pour élever un enfant.
Ces 2 citations, toi et ta co-autrice, vous les avez choisies pourquoi en fait exactement ?
Alors, ce qu'on avait vraiment envie de faire, qui nous tenait à cœur, c'était de ne pas en rajouter à la culpabilisation des mères. Parce qu'on savait qu'en écrivant sur le sujet de l'éducation, notre lectorat, ça allait être un lectorat majoritairement féminin, majoritairement de mères. Or, quand les mères lisent, Elles sont tellement habituées, en tant que femme, de toute façon, on est tellement habituées à recevoir des injonctions, on est tellement habituées à recevoir des messages qui nous disent que, qui nous disent tout et son contraire, et en tout cas qui nous disent qu'on n'est jamais, que ça ne va jamais, qu'on n'est jamais assez ceci, assez cela. En tant que mère, c'est la même chose, donc on a une double couche de reproches, d'injonctions. C'était une façon de prévenir nos lectrices et de leur dire... Ne vous inquiétez pas, on est avec vous. Et si votre éducation non sexiste, c'est de traîner en pyjama, et ben chouette, allez-y quoi.
Pour pas que ça devienne une injonction de plus.
Mais voilà, que en tout cas, en découvrant, en apprenant des choses, en lisant le livre, en ayant des prises de conscience, parce que quand on lit, généralement, c'est parce qu'on va approfondir un sujet, donc il y a des prises de conscience. On avait peur que des lectrices puissent se dire « Ah ben mince, j'ai fait ça, j'ai mal fait ». Par exemple... j'ai choisi plein de vêtements roses pour ma fille. Et bien, en fait, je comprends que ça fait partie des codes du féminin qui sont dévalorisés par rapport aux codes du masculin. Mince, j'ai dévalorisé ma fille, j'ai mal fait. Mais du coup, l'idée, c'était de dire, quoi que vous appreniez dans ce livre, sachez que nous, on n'attend rien de vous, qu'on n'est pas dans le jugement.
Ça peut être difficile, en fait, d'essayer d'apporter une éducation non-genrée à ses enfants. Parce que évidemment, les enfants vivent en dehors de chez nous, et donc ils sont confrontés, aux autres enfants, confrontés à l'école, les catalogues de jouets, les livres jeunesse qui sont quand même en grande majorité encore pas très antisexistes. Comment on arrive en tant que mère, en tant que féministe, en tant que personne qui essaye de non-genrer l'éducation de son enfant, à se sortir de tout ça, en fait.
Ça me fait faire le lien entre ce qu'on disait tout à l'heure et ce que tu dis maintenant. C'est qu'il n'y a pas ce fameux village, on manque de ce fameux village pour élever un enfant, c'est-à-dire de personnes en responsabilité, en solidarité par rapport à la responsabilité, à toute la charge de travail, à tout le travail que c'est. Mais par contre, malgré tout, on n'est pas seul à transmettre. Les messages arrivent à nos enfants, que ce soit de façon active ou moins active, donc par des panneaux publicitaires, comme tu disais, des contenus qui vont leur arriver, et puis un contexte familial, donc ça peut être l'autre parent, souvent un père qui n'a pas eu la même réflexion sur ces sujets parce qu'il est moins touché, donc généralement c'est plus des mères qui vont se soucier de ces sujets. Et puis les grands-parents, les cousins, les cousines, les copains, les copines, les parents des copains, des copines. Donc, on n'est pas seul. Et même si on était seul, de toute façon, les stéréotypes sont tellement forts, on baigne tellement dedans depuis longtemps que nous, les premières, en tant que professionnels de ces sujets, etc., on a en nous des stéréotypes qui guident certaines de nos actions. Mais par contre, on peut, en ayant des clés de lecture, en ayant des connaissances, les repérer, ces stéréotypes qui se mettent en action quand on va vouloir prendre une décision, quand on va réagir. C'est très difficile de donner une éducation non-genrée et non-sexiste. C'est surtout la question du sexisme et des stéréotypes sexistes, de domination qui posent problème. C'est très difficile, mais par contre, on peut, en comprenant l'histoire, en comprenant les normes, voir ce qui nous a touchés et puis ce qui nous tient à cœur aussi en tant que parents. À quoi, moi, en tant que mère, je suis sensible. En tant que parent, on réfléchit par rapport à son parcours personnel, à ce qui nous a plu de notre éducation, ce qui nous a déplu, ce qui nous a fait souffrir. Et donc, en fonction, on s'attache à des particularités, des moments de l'éducation, des thèmes de l'éducation de nos enfants et on a envie d'agir dessus. Donc, l'idée, c'est de donner des clés de compréhension pour avoir ces lunettes-là et pouvoir faire des choix davantage en conscience. L'autre intérêt, je trouve, de la question de cette analyse de où se niche le sexisme dans l'éducation, c'est que en réfléchissant là-dessus avec nos enfants, en discutant de tout ça avec nos enfants, on leur donne une clé qui est la clé de l'esprit critique qui va jusqu'au bout, en fait. L'esprit critique, c'est un peu un grand objectif de l'éducation en général, mais encore aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on va pas jusqu'au bout parce on n'est pas encore capable d'outiller les professionnels pour qu'ils détricotent ces normes de genre dans leur posture professionnelle, etc. Donc, le sexisme, il est encore à l'école. Par contre, nous, en discutant avec nos enfants, on les outille, on leur propose d'être dans la remise en question, le doute, le questionnement des normes, l'esprit critique.
Tous ces éléments de la culture sexiste, en fait, comme tu l'expliques dans le livre, ça commence en fait dès la grossesse.
On a été habitué à penser l'être humain avec la catégorie de sexe et les normes de genre qui gravitent autour. On a pris connaissance des travaux d'une chercheuse qui s'appelle Gaëlle Larieux, qui travaille sur ces sujets-là et qui est en thèse actuellement. Et elle explique ça, elle explique qu'on est incapable de penser l'humain sans penser à la catégorie de sexe et de genre. Et elle utilise cette réflexion pour réfléchir et expliquer ce qui a poussé le corps médical à être si réticent, si intrusif et si violent vis-à-vis d'enfants intersexes. Elle questionne justement les interventions médicales et toute l'idéologie qu'il y a derrière au moment où on s'aperçoit que des enfants sont intersexes. Pour penser l'humain à venir, dans le cas d'une grossesse, on a besoin ou très souvent envie de l'associer à de connaître son sexe et d'imaginer des choses autour de ça. Pour plein de parents, c'est une façon de se projeter. Alors, ça peut être se projeter sur des choses assez matérielles, comme des questions de couleur, de décoration ou d'identité par rapport à un prénom. Mais c'est aussi pour des femmes qui racontent, comme beaucoup de femmes, elles ont vécu des agressions et qu'elles ont envie, alors certaines, de pas avoir une fille parce qu'elles ont, elles se sentent pas capables d'éduquer une fille. Et puis, si elles sont enceintes d'une fille, de le savoir en avance pour mieux se préparer parce que c'est pas évident. Il y a plein de raisons de vouloir connaître le sexe de son enfant. Et puis, d'ailleurs, les parents n'ont pas à se justifier de leur choix.
On observe ça, donc les stéréotypes de genre dès la grossesse, ça influence en fait nos réponses ensuite quand le bébé naît aux besoins des bébés. Ensuite, ça influence nos réponses en matière de comportement, en matière d'émotion par rapport aux enfants, puis ensuite aux adolescents. En fait, c'est comment le sexe en fait suppose des attentes particulières en fonction que ce soit une fille ou un garçon en termes d'éducation. Et là, c'est quelque chose que vous expliquez bien aussi dans votre livre.
Ce qui est intéressant avec l'exemple des pleurs du bébé qu'on va laisser donc pleurer plus longtemps si c'est une petite fille et puis moins longtemps si c'est un petit garçon, ou des pleurs qu'on va qualifier de pleurs de filles parce qu'ils sont aigus et pleurs de garçons parce qu'ils sont plus graves. C'est intéressant parce que, notamment parce que ça montre à quel point les stéréotypes sont puissants et partout. C'est-à-dire que quand on est chez soi, j'imagine mon postpartum, voilà, je suis entre guillemets congé maternité toute seule avec mon bébé pleure. Je peux me dire que c'est moi et mon bébé. Ma réaction, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose. Enfin, je vais réagir par rapport à qui je suis, à mes émotions, à ma fatigue, à ma personnalité, par rapport à ma relation avec mon enfant, au fait que. Eh bien, en fait, même là, on se rend compte que notre culture sexiste, notre culture patriarcale, elle a des effets. Même dans ce type de situation qu'on imaginerait plutôt basée sur l'affect ou la relation interpersonnelle et c'est tout. Eh bien non, on s'aperçoit que généralement, on laisse davantage pleurer les filles et moins pleurer les garçons quand on connaît le sexe de l'enfant. Donc imaginons que je vous dise, voilà, ben, c'est un petit garçon, est-ce que vous pouvez vous en occuper alors que c'est une petite fille. En général, le professionnel ou la personne qui va s'en occuper va intervenir moins vite si c'est une fille ou plus vite si c'est un garçon. Parce que socialement, un garçon, c'est plus important, donc il faut répondre à ses demandes. Et socialement, une fille, c'est considérée comme plus chouineuse, capricieuse, etc. Donc finalement, c'est de la comédie, elle peut attendre. Et malgré tout, même si on est persuadé du contraire, quand on mesure les réactions, les temps de réaction, on se rend compte que finalement, on est touché par ces stéréotypes. On les a intégrés. Ça va être aussi des stéréotypes qu'on va retrouver donc quand une petite fille qui va grandir, ou une jeune fille, ou ensuite une femme, va exprimer de la colère. C'est pas possible. C'est pas acceptable. Alors déjà, c'est pas acceptable. Ou alors, on n'est même pas capable de reconnaître que c'est de la colère. Donc finalement, on n'entend pas et on va pas accéder à ses besoins. Ou pas respecter ce qu'elle est en train de dire. Alors qu'un homme qui se met en colère, un petit garçon, puis un jeune homme, etc. Bah, sa colère, c'est une émotion qui est masculine, qui est valorisée en plus pour les garçons. Donc, on va l'écouter, on va la considérer et on va la prendre en compte. Mais c'est aussi les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre quand On a des femmes racisées qui se présentent à la maternité, qui disent qu'ils vont accoucher, qu'elles ont mal ou même qu'ils vont subir voilà, une intervention médicale. Il y a cette qu'on appelle le syndrome méditerranéen, qui est en gros selon lequel les femmes racisées seraient plus exagérées la douleur et à la fois la supporteraient mieux. Donc en gros, les soignantes et les soignants, sans le vouloir, ont intégré ces stéréotypes et donc vont laisser souffrir plus longtemps une femme racisée qu'une femme non racisée, finalement, on va être dans la maltraitance.
Il y a les émotions et puis il y a aussi juste la gestuelle du corps, en fait. Par exemple, tu expliques aussi dans le livre, on va moins dire à un bambin garçon de faire attention quand il court, quand il saute, quand il grimpe, alors qu'on va le dire plus facilement à une fille, à un bambin fille, de marcher plus doucement, de faire attention à ses habits. Et en plus, si elle porte une robe, elle va être de toute façon freinée un peu plus dans ses mouvements.
Étant donné que les filles et les femmes sont considérées comme un peu des êtres doux, des êtres jolis, en tout cas, qui doivent servir à apporter de la douceur et du confort et du joli, eh ben, effectivement, il ne faut pas faire trop de bruit, il ne faut pas trop bouger, il ne faut pas déranger. Et ça va se traduire par des chaussures qui vont être inconfortables, mais qui vont paraître jolies, féminines, entre guillemets. Des vêtements, pareil, hein, qui vont être considérés comme jolis, mais qui vont contraindre le mouvement. On a une personne justement qui témoigne d'une enfant qui essayait d'apprendre à marcher, qui commençait à marcher et qui tombait sans arrêt parce qu'elle portait une robe qui entravait ses jambes et son pas. Donc elle tombait de ce fait. Donc voilà, ça va se retrouver dans les vêtements, ça va se retrouver dans le bruit, ça va se retrouver dans le temps de parole qu'on va laisser davantage aux petits garçons. Et donc, les petits garçons apprennent la normalité de ce qu'après on va qualifier de mansplaining ou de mansinterrupting. Et les petites filles apprennent à se taire, à écouter. Alors, écouter, c'est une très belle qualité. Mais prendre la parole, ça devrait être possible aussi pour les filles. Finalement, c'est une place qui n'est pas donnée, qui est empêchée, que ce soit l'espace sonore ou l'espace physique, ou l'espace même l'éventail émotionnel, il est genré et puis il est très contraint pour les filles.
Et aussi dans le livre, ta co-autrice Manuela Spinelli donc, et toi, vous racontez en fait l'histoire marketing des couleurs rose et bleu. Et c'est super intéressant parce qu'on ne connaît pas forcément et on présuppose en fait que ça a toujours été comme ça, que le rose c'était pour les filles et que le bleu c'était pour les garçons. Et en fait, non, ça a été inventé de toutes pièces pour des questions de marketing en fait.
Déjà longtemps, le code a été inversé, mais c'était plutôt un code couleur pour les adultes, donc avec le bleu qui était plutôt pour les femmes, parce que dans les pays à influence catholique, c'était la couleur de la pureté de la Vierge. Donc bon, c'est tout aussi sexiste comme code couleur, mais en tout cas, le code couleur était inversé. Et puis le rouge, c'était la couleur du combat, du sang, donc c'était une couleur masculine. Et les enfants, jusqu'au début du XXe siècle, ils étaient... jusqu'à même la première moitié du XXe siècle, plutôt vêtus de blanc, parce que déjà, c'était censé être des êtres un peu asexués, angéliques, et puis donc il était mal vu de d'utiliser la couleur, ça les aurait sexualisés. Et puis ensuite, il y avait aussi une question de coût. Les teintures, ça coûtait cher, et donc les enfants étaient vêtus de blanc, les vêtements étaient bouillis, ils se passaient de famille en famille ou ils se passaient en fratrie, et puis c'était des robes jusqu'à 4-5 ans d'ailleurs, parce que c'était plus facile comme ça de changer les enfants. Dans les années 40-50, ça commence à changer un petit peu. Il y a l'influence de la psychanalyse avec fait de distinguer les enfants par la couleur et de surtout protéger entre guillemets les garçons du féminin, empêcher la pseudo-féminisation des garçons. Et puis ensuite, dans les années 80, en fait, ce codage rose pour les filles et bleu pour les garçons, ça va être une réaction du marché capitaliste, de l'industrie de l'habillement, au retour de bâton suite au mouvement féministe des années 70. Il y a eu des gros mouvements féministes, tout le monde n'est pas d'accord, donc il y a eu des réactions contraire, qui donc souligne la distinction, naturelle, la distinction qui devrait primer, et l'ordre de genre classique, traditionnel. Et donc le marché s'engouffre là-dedans en disant bah oui, dédoublant nos ventes en utilisant deux codes couleurs au lieu de faire des vêtements pour les enfants, faisant des vêtements pour les filles et pour les garçons.
Et aujourd'hui, ça, c'est difficile de s'en défaire, en fait.
Bah ouais, c'est difficile de s'en défaire parce que le marché a des moyens. Oui, c'est difficile de s'en défaire. Après, ce qu'on a beaucoup aimé faire dans le livre, c'est partager des expériences de parents. Et donc, j'ai souvenir d'une mère qui dit qu'elle était attentive à la façon dont elle habillait son petit garçon et que si c'était à refaire, elle aurait été encore plus subversive dans les premières années de scolarité ou de crèche de son enfant pour justement faire passer des messages aux autres. Il y a une mère aussi qui dit qu'elle a mis en fond d'écran sur son ordinateur un homme en jupe et que du coup, à chaque fois que son gamin vient lui réclamer un dessin animé, il voit cette image et que du coup, comme ça, elle espère que d'autres possibles s'impriment en lui et que voilà, ça casse la binarité.
Dans le livre, vous parlez toutes les deux aussi de comment en fait lutter aussi contre la charge mentale qui est la charge mentale maternelle, donc qui est vraiment sur principalement une charge mentale des mères, et puis aussi vous questionnez la monétisation de la vie domestique, en fait, de la vie de la mère au foyer. Qu'est-ce qui fait que avoir un congé parental égalitaire, lutter contre la charge mentale maternelle et poser la question de la monétisation de la vie de parents au foyer, eh ben, ça permet des réflexions et une éducation moins genrée.
C'est très important tout ça parce que il s'agit de se poser la question de quel modèle on donne aux enfants. C'est-à-dire que si la phrase que nos enfants entendent tous les jours, c'est « papa travaille et maman, elle ne travaille pas le mercredi après-midi », ce qui est considéré comme du travail et comme étant représentant un investissement d'énergie, de temps, comme ayant de la valeur, c'est pas ce que fait la mère, c'est pas ce que font les mères, c'est pas ce que font les femmes, c'est ce que font les hommes et ce que font les pères. Le fait d'avoir un congé paternité qui est minuscule, qui va passer bientôt à 7 jours seulement obligatoires, donc c'est toujours ridicule, et 28 jours, c'est toujours très inférieur et très insuffisant pour que les deux parents fassent l'apprentissage ensemble de la parentalité et du coup répartissent la charge logistique, la charge mentale. Du coup, le modèle, l'exemple qu'on envoie à nos enfants, c'est que papa il retourne au travail et maman elle reste à la maison. Mais elle fait quoi? Elle reste à la maison, elle est immobile, elle est les doigts de pied en éventail à la maison. C'est comme s'il ne se passait rien à la maison. On est à la maison. Avec un congé paternité minuscule et un congé maternité qui, du coup, n'est pas un congé vu qu'on est seul, voire avec un enfant plus grand, eh ben, on envoie le message que c'est aux mères de s'occuper des enfants. D'ailleurs, que c'est normal qu'elles le fassent. Que, en plus, ça n'est pas du travail. Donc, ça n'a pas de valeur. Ça ne représente pas de temps, d'énergie, de fatigue, etc.
Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à aller vous abonner au podcast sur votre plateforme de diffusion préférée et à bientôt pour un nouvel épisode de Bretonne, Breton et Féministe.
I think I'm about to explode. morning sun, tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. From a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
nasci lá na Bahia, de mucama com feitor. Meu pai dormia em cama, minha mãe no pisador. Meu pai só dizia assim, venha cá. Minha mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito, perde logo seu amor.
Mulher que fala muito, perde logo seu amor.
Deus fez primeiro o homem, a mulher nasceu depois. É por isso que a mulher trabalha tanto pelos dois. Homem acaba de chegar, tá com fome. A mulher tem que olhar pelo homem. E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar.
E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar.
O rico acorda tarde, já começa a rezingar. O pobre acorda cedo, já começa a trabalhar. Vou pedir ao meu babá lorixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou.
Pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou.
Primeiro o homem, a mulher nasceu depois. É por isso que a mulher trabalha tanto pelos dois. Homem acaba de chegar, tá com fome. A mulher tem que olhar pelo homem. E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar.
E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar.
E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar.
E é deitada em pé, mulher tem é que trabalhar.